déambulation.
Samedi 19 octobre 2019, à l'espace social et culturel de Die, Drôme, France, planète Terre, un petit groupe de jeunes gens a présenté pour la première fois le documentaire qu'ils ont réalisé au Sénégal à l'occasion du chantier de construction d'un réfectoire auquel ils venaient de participer. Un réfectoire plein d'espoir, il avait appelé. Extrait du disque Diam de Ablaye Sissoko. Seize garçons et filles, âgés d'environ 17 ans, ont mené durant ces deux dernières années écoulées un projet solidaire, comment dire, humain, fraternel, en coopération avec un groupement d'intérêt économique sénégalais, à Ungelak plus précisément. Il paraît que c'est au nord-ouest du pays, pas très loin de l'océan, à 20 km de la ville de Saint-Louis, et qu'on y accède en empruntant des pistes de sable. Encouragé par les deux animateurs jeunesse de l'ESCDD, Damien et Aurélie, et soutenu par l'association Les Mains du Diwa, leur projet a été de participer aux travaux de construction d'une cantine scolaire destinée à l'accueil de collégiens, mais aussi des étudiants en agropastoralisme du centre de formation de Ungelak. Grâce à cette cantine, les élèves et leurs enseignants pourront alors bénéficier de repas à l'heure du déjeuner et ainsi étudier, travailler dans de meilleures conditions. Quand nous nous sommes rencontrés, quelques heures avant celle de la projection du documentaire, les représentants de ce groupe de jeunes, sans doute encore la tête ailleurs, rentraient tout juste des 15 jours de chantier auxquels ils venaient de participer, là-bas, loin d'ici, en Afrique de l'Ouest. Désormais, à Ungelak, sur la planète Terre, une cantine scolaire est ouverte et donne espoir à toute une communauté. Ce jour-là, en plus d'organiser toute la soirée, de participer à l'AG de l'association dans l'après-midi, de terminer le montage du film, d'installer tout le matériel, chaises, écrans, sonos, tables, de préparer un buffet et une expo de photos et d'explications écrites, ils ont pris le temps de répondre à un certain nombre de questions que je souhaitais leur poser. C'est avec beaucoup de fébrilité et d'admiration que je leur ai tendu, presque un peu débile, le micro de Erdiwa. Dans la grande salle de l'ESCDD, tout prête pour la réception du public en soirée, nous nous sommes assis sur un tapis. Au micro, une partie seulement de ces jeunes gens réunis, Aurélie, l'animatrice et moi-même, avons mené un échange un peu comme l'on oserait un pas de danse, sensible et instinctif. Écoutez plutôt, les mains tout pleins d'espoir. Rencontre avec quelques-uns des jeunes solidaires de notre territoire. Mais pas seulement. Allons y voir. La toute première question que j'ai présentée à celles et ceux qui voudraient bien s'en saisir a été « Qui es-tu, toi ?»
Moi du coup là je suis un jeune étudiant et quand on a commencé le projet j'étais lycéen. Je suis arrivé à Die en seconde du coup et voilà j'habite dans la Drôme, je m'appelle Simon.
Je m'appelle Adèle, je suis aussi étudiante à Grenoble et j'ai fait partie de ce projet à partir de la fin seconde.
Moi c'est Léna, je suis aussi étudiante mais moi je suis à Annecy cette année et voilà je fais aussi partie de ce projet depuis la fin seconde mais moi j'habite sur Die.
Aurélie, pour ma part, je travaille à l'espace social, plus précisément à l'espace jeune, et du coup, j'ai accompagné les jeunes pendant les 2 ans de projet.
Je m'appelle Magali, j'ai participé au projet solidaire dès la seconde, où j'étais au lycée sport nature du Diwa, et aujourd'hui je fais mes études à Digne.
Qui êtes-vous? Je trouve que c'est une question assez basse quand même. Mais sinon, je fais mes études à Digne aussi, et donc je fais partie du projet Réfectoire plein d'espoir. Et je m'appelle Jeanne.
Moi je m'appelle Zoé, donc aujourd'hui je suis étudiante à Grenoble, et je fais partie du projet depuis le début, donc quand on était au lycée.
Moi je m'appelle Lilou, donc là je suis étudiante à Grenoble aussi, et pareil, depuis le début je suis partie du projet Réfectoire plein d'espoir.
L'une ou l'autre d'entre vous pourrait me raconter un peu le contexte dans lequel vous avez imaginé cette action solidaire?
Il y a déjà nos termes à nous qui sont partis, donc il y a 3 ans de cela, qui sont partis aussi au Sénégal pour aider dans une association solidaire. Ils ont fait aussi, un peu comme nous, là, une soirée de restitution. Du coup, on était présents à ce moment-là. Ils nous ont expliqué le projet. Ça nous a donné envie à nous et à une bande de potes, quoi. On était 25 au début, 26. Et après, petit à petit, il y en avait qui avaient d'autres occupations, d'autres projets à faire. Et du coup, on a été 12 jeunes à partir, mais 14 à vouloir y être sur place, quoi, jusqu'au bout.
Quelles étaient vos motivations?
La curiosité de voyager, de découvrir un autre pays dans lequel j'avais pas voyagé, de rencontrer des gens et de monter avec eux un projet concret. Enfin, moi, c'est vraiment la curiosité, je crois, qui m'a poussée à faire ça.
Moi, je pense que c'était plutôt besoin de me sentir utile et de faire quelque chose avec eux pour eux. Enfin, c'était pas. Enfin, il y avait la rencontre aussi, mais je pense que c'est plutôt ça qui m'a poussée au début, mais pas à faire quelque chose, pas juste amener des cahiers scolaires. C'était vraiment monter un projet avec eux. En fonction de leurs besoins.
On avait aussi l'envie de rencontrer d'autres jeunes pour créer quelque chose vraiment avec eux et aussi avoir l'occasion d'échanger sur les différences de culture et sur différents débats très intéressants.
Du coup, on s'est vite tous retrouvés au même endroit, quoi, à l'espace jeune, avec Aurélie et Damien qui nous ont aidés à monter le projet et chercher les subventions et créer les liens aussi une fois sur place.
20h. La grande salle de l'ECDD au parquet qui grince est tout emplie de gens bariolés, des petits et des grands, des familles resserrées, entières ou recomposées, des groupes de lycéens et des personnes plus âgées, des enfants. Les protagonistes de toute cette histoire, sans doute le cœur battant, restent calmes, en apparence.
Ça dole, pour quoi faire? Ça dole, pour quoi faire?
Pouvez-vous me raconter du coup comment s'est déroulée la réalisation, la construction de ce réfectoire? Vous avez été sur place, donc là vous venez de vivre ce chantier. Alors peut-être d'abord combien de temps il a duré ce chantier?
On est parti que 2 semaines, on n'a pas vu le chantier totalement abouti. Enfin là je crois qu'ils ont juste fini. Et il y avait plusieurs choses à faire pour le construire. Après, en fait, sur place, on pensait qu'on allait faire que vraiment le chantier et la vie quotidienne et tout ça. Et au final, il y avait une étape qu'ils ont commencé à construire, qu'on a fait avec eux au final. On est plus resté sur l'étable et un peu moins sur le chantier au final. Mais c'était super intéressant de voir les deux et d'apprendre de techniques pour... Enfin, je sais pas si c'est intéressant, quoi.
Et du coup, j'aimerais imaginer ce bâtiment, donc, ou cette étable, c'est ça?
Oui.
Hein? C'était construit avec quel genre de matériaux? Comment c'était? C'était quoi un peu le concrètement, hein, le travail que vous faisiez?
Déjà, on voyait qu'ils faisaient tout à la main. Déjà, ils faisaient leur propre ciment, ils faisaient que du sable, des graviers. Après, ouais, le fil de fer, ils construisaient tous les poteaux eux-mêmes. Leurs briques, enfin, les parpaings, ils les faisaient eux-mêmes. Du coup, on voyait qu'ils faisaient tout à la main. Et enfin, voilà, ils construisent tout eux-mêmes, c'est trop bien.
Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, ça, comme réflexion ce que tu viens de raconter, qu'ils font tout avec leurs mains. Qu'est-ce que ça vous inspire comme pensée? Tu en as dit quelque chose? Toi, t'as dit c'est trop bien. Tu vois?
C'est trop bien parce que du coup, on voit qu'on n'a pas besoin forcément de machines, enfin que là-bas, ils n'ont pas grand-chose. Au final, ils arrivent quand même à faire nous tout ce qu'on fait avec des grandes machines, des outils et tout. Enfin, ils se débrouillent qu'avec ce qu'ils ont. Et au final, ils arrivent à faire des trucs aussi bien que ce qu'on fait.
Et l'ambiance sur le chantier, elle était comment? Elle était agréable, les gens là-bas, de travailler avec eux, de travailler tous ensemble, c'était comment ça? Qui c'est qui veut me raconter ça?
Je trouve qu'il y avait une super cohésion de groupe, on a fait des chaînes humaines pour faire passer les briques en haut, pour les monter après. Il y avait une super bonne ambiance, c'était pas du travail en fait en soi, c'était juste de la rencontre avec eux. Il y a eu beaucoup d'échanges en fait, c'était super. J'ai pas senti le travail physique en fait, c'était plus... On a parlé avec eux, enfin c'était trop bien quoi. On a appris à les connaître sur le chantier en fait globalement donc
voilà. C'est vrai que vu qu'il n'y a pas les gros bruits de machines et des énormes chantiers énormes comme on peut trouver ici en France, on peut discuter, on peut ouais c'est ça, enfin comme tu disais c'est ouais.
C'est très humain du coup, enfin comme disait Zoé, vu qu'on tout est fait à la main, et eh ben ouais c'est ça, c'est un travail d'équipe et ouais. Voilà, c'est tout.
Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le lieu, ce qu'on trouvait, l'environnement quoi, de cet endroit?
Là-bas, ils ne connaissent pas la terre. Il y a du sable à perte de vue, quoi. Ils font tout pousser à partir du sable. Du coup, déjà, c'est rigolo quand on leur a expliqué que nous, on s'est poussé dans des pots, quoi, en terre et tout. Je trouvais ça bizarre. Et sinon, c'est un espace vachement désertique aussi. Là-bas, sur Guélac, il y avait beaucoup d'eau, parce qu'ils avaient une réserve d'eau. Mais sinon... c'est vachement désertique dans l'ensemble, quoi, dans les régions autour et tout. Il y a beaucoup d'acacias, on a vu des baobabs aussi.
On voit des rivières, des petits cours d'eau.
Il y avait un cours d'eau pas loin de Guélac, ouais. Et après, c'est pas mal des nappes phréatiques, du coup, on les voit pas en surface.
Ok. Vous êtes allé vous baigner dans ce fleuve ou dans cette rivière?
Non.
Savez-vous aujourd'hui ce qui se passe à cet endroit? Êtes-vous resté en contact avec les gens là-bas? Voilà ma question.
Oui, enfin surtout avec, il y avait des jeunes qui avaient plus notre âge. Enfin, je sais que nous, en tout cas, on est vachement en contact avec deux vraiment potes qu'on s'était vraiment fait, c'était vraiment des liens forts et eux, on leur parle souvent. Et après, les autres personnes du village, on peut les contacter un peu quand on veut. On sait qu'on a leur mail, leur numéro. Après, il y a moins de liens qui est resté avec les autres.
Vous pouvez dire qui sont ces personnes? Pardon.
Doudou, en fait, il fait partie des... Il y a eu deux cofondateurs du projet de développement intégré. Donc, du coup, Doudou et son cousin... Ousmane, merci, qu'on a moins vu sur place. Et donc, ces deux cousins qui, il y a 25 ans, ont voulu en fait s'installer sur le site. Enfin, et du coup, avec l'intention de pouvoir sédentariser les populations peules qui jusque-là étaient des populations nomades. Et pourquoi ils ont souhaité faire un projet sédentaire, c'est qu'en fait, ils ont été victimes de deux famines au Sénégal dans les années 80 et 90. Et en fait, ils nous expliquaient que les populations peules ne s'en étaient jamais remises de ces famines-là. Et du coup, il y avait l'intention qu'ils puissent être sédentaires, pouvoir développer une agriculture et de l'élevage qui correspondent à la fois à leurs valeurs et à leurs traditions ancestrales, mais en se posant dans un endroit où ils pouvaient avoir accès à l'eau, où ils pouvaient cultiver de façon à pouvoir manger, etc. Et donc ces personnes, ça fait 25 ans en fait qu'elles œuvrent sur ce projet et où ils ont monté ils ont monté des écoles, ils ont monté un dispensaire, ils ont fait vraiment c'est le travail d'une vie. Voilà, donc ça c'est Doudou et Ousmane, et il y a aussi le cousin de Doudou qui s'appelle Ndiak, qui en fait nous a accueillis, qui était la personne en fait, l'interlocuteur privilégié, et voilà, ils nous ont guidés tout au long de cette aventure. Sur place. Ouais.
Extrait du film Doudou.
Il y a beaucoup de projets souvent qui sont parachutés. Nous, les projets ne sont jamais parachutés. C'est la même chose avec votre projet. C'est parce que vous nous aviez demandé, et c'est ça qu'il faut en fait, vous n'avez pas imposé le projet. Vous nous avez demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec vous. C'est nous qui avons dit, nous avons ce besoin-là. Et à l'époque, le besoin, c'était un réfectoire. Alors, on est tombé d'accord là-dessus. Et vous avez fait ce qu'il faut, et même plus que ce qu'il faut, pour que ça réussisse.
Quel regard vous avez, vous, sur désormais sur ces 2 ans de travail?
C'est vrai que c'était long et parfois, bon, je dirais, pas éprouvant, mais ça demandait du temps et tout ça. Mais au final, c'était quand même, je pense, important qu'on ait fait ça et qu'on soit arrivé jusqu'au bout. Enfin, ça aurait été un peu terrible pour nous si on n'avait pas réussi à partir ou quoi. Enfin, maintenant, avec le recul, tout ce qu'on a vécu là-bas et les liens qu'on a créés, ce qu'on a appris, c'est vraiment hyper important. Enfin, pour notre ouverture d'esprit, pour même notre vie de tous les jours, je pense que c'est important d'avoir vécu cette expérience.
Au début, il y avait déjà le financement. Du coup, comme on a mis des sous là-bas déjà, on a apporté 10 000 euros sur place. Et du coup, ça, c'était pas quelque chose de concret qu'on avait avec les jeunes et tout. Du coup, c'était difficile de se mettre dans le bain pour se dire, on donne des sous pour donner des sous. Et du coup, après, une fois là-bas sur place, quand tu vois la construction du réfectoire, quand tu rencontres les gens et tout, le projet prend sens quoi là-bas. Et ça, je pense que c'était genre le bonus d'aller là-bas et de comprendre tout ça, pourquoi on avait fait ça pendant 2 ans et tout. Et du coup, les deux semaines là-bas, c'était 2 semaines de prise de conscience, et c'était vraiment 2 semaines de ouf quoi.
Extrait du film Ousmane.
Nous, on a souvent refusé des projets parce que si on refuse un projet, c'est pas parce que c'est pas un bon projet. Ça peut être un bon projet, mais qui vient pas à son heure. Si le projet vient pas à son heure, on le refuse. Si également le projet ne nous arrange pas parce que c'est contre notre philosophie, on refuse. Il y a que ces 2 points-là.
En tout cas, pour ma part, ce que j'ai trouvé très très fort là-bas, c'est qu'en fait, on a fait face à des personnes qui ont, donc ont grandi sur place, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs études au Sénégal. Ensuite, pour certains, ils ont fait des études en Occident. Et donc, ils ont fait vraiment des choix de renoncement, donc à une vie plus confortable pour pouvoir vivre dans leur pays et pour pouvoir développer en fait au niveau local les populations qui sont beaucoup plus fragiles. Et c'est et on mesure quand on va là-bas, on sait que il n'y a que du sable, on sait qu'il n'y a que des acacias, on sait que l'eau, bon là en l'occurrence ils ont accès à l'eau, mais il y a 20 ans ils n'avaient pas accès à l'eau. C'est vraiment une vie de dépouillement et donc ils s'accrochent vraiment à des valeurs qui sont très très fortes et qui nous ont pu nous transmettre. Et c'est ça la richesse, elle est à cet endroit-là, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui portent un projet et qui le portent de façon entière.
Et c'est vrai que vous qui portez un projet aussi, qui avez porté une action, sans doute ce qu'il vous enseignait, c'était ce que tu dis Aurélie, c'est donc portez-le d'une manière entière, soyez ce que vous êtes et donnez-le quoi, peut-être que c'est ça.
Oui, donnez mais aussi et partagez-le. En fait, l'idée, c'était ça, en fait. Le projet, ce que disaient les jeunes, c'est qu'ils voulaient pouvoir rencontrer d'autres jeunes, donc des jeunes qui sont là, en l'occurrence, sénégalais. Ils voulaient pouvoir partager les différentes cultures dans lesquels ils vivent, ils évoluent. Mais surtout, c'était vraiment l'idée à quel endroit on se rencontre, en fait. Comment, de quelle manière on va pouvoir se rencontrer. Et là, construire, plus symboliquement construire, participer à la co-construction d'un bâtiment, c'est symboliquement, en fait, c'est hyper fort. Donc, c'est... Enfin, voilà, je me suis perdue dans ce que je dis, mais...
C'est aussi là, il y a tout plein de directions parce que c'est un peu le désert autour. Hein. Vous l'avez exploré d'ailleurs le désert?
Oui, on allait un peu se promener. Il y avait un château d'eau un peu plus loin du village où des fois on allait, on montait, on regardait le coucher de soleil. On a visité aussi d'autres environs, d'autres villages, tout ça. Mais le désert, on était dedans. Enfin, le village est vraiment posé au milieu de rien. De rien, c'est... C'est pas rien, mais c'est pas grand-chose, quoi.
Qu'est-ce que cette expérience a fait naître en vous ? Quelque chose de nouveau peut-être en vous, quelque chose de neuf. Est-ce que vous avez un regard là-dessus, une sensation que vous pourriez partager avec les auditeurs de RDOA?
Oui, je pense que cette expérience, elle a fait grandir le groupe parce que ça nous a permis, tout au long de ce projet, on s'est épanoui personnellement et le groupe il s'est vraiment épanoui. Il y a vraiment une cohésion de groupe qui, je pense, avec le voyage, a été vraiment... On a vraiment abouti à un groupe très soudé. Et aussi, chacun, je pense qu'on a évolué en autonomie pour, mettons, quand on écrivait les mails, quand on appelait, c'était de plus en plus fluide, il y avait de moins en moins d'incertitudes. Et aussi, on a évolué aussi au niveau de l'ouverture d'esprit grâce aux différents débats sur la polygamie, l'homosexualité, les religions qu'on a pu avoir lors du voyage.
Et de retour en France, ben, on avait presque envie de remettre tout en question le système, quoi, parce que là-bas, eux, ils n'avaient rien. Et ils t'offraient tout, quoi. Ils avaient un accueil hyper chaleureux, une solidarité hyper présente, quoi. Et en France, même si on a toute la technologie qu'il nous faut, tout l'argent et tout, au final, tout ça, ça paraît pas chez nous, quoi. Même un simple bonjour dans la rue, il faut l'arracher aux gens, quoi. Alors que là-bas, le sourire, il est toujours présent. Enfin, c'est ouf. Ça, c'est génial, quoi.
Et j'aimerais savoir... Quel regard vous portez, vous, sur les questions de migration en Europe, en France, et peut-être plus précisément encore dans le Diwa? Et quelle réflexion vous inspire la situation des hommes et des femmes qui quittent leur pays en espérant pouvoir peut-être vivre en France?
Enfin, c'est une question hyper complexe, mais après, moi, je ne comprends pas que nous qui ayons les moyens de les accueillir et qu'ils puissent avoir une vie, pas stable, mais avec de la sécurité et un minimum confortable, on ne leur donne pas accès à ça. Mais après, je me dis, c'est aussi à nous de travailler aussi sur l'image qu'on laisse de la France, en fait, et des pays européens, parce que quand nous, on va là-bas, c'était pas le paradis, mais il y a plein de choses qu'on a trouvées super, surtout dans les valeurs, qu'on s'y est vachement retrouvés et on... comme disait Simon, le sourire, ils sont hyper accueillants. Et du coup, en venant en France, je pense que c'est une désillusion aussi pour eux. Pour eux. Et je pense que ça, faut qu'on fasse attention. Enfin, pas leur laisser une image trop belle de la France.
Mais les différences ne doivent pas constituer des obstacles. Et moi, je dis souvent, en tout cas, comme beaucoup d'autres, que heureusement qu'il y a des différences, parce que c'est parce qu'il y a des différences qu'on échange entre nous. Échanger, ça veut dire déjà qu'il y a des différences. Et donc, il y a naturellement des différences sur le plan culturel, parce que nous n'avons pas les mêmes cultures, les réalités, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes avancées technologiques. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment sur lesquelles nous pouvons débattre de midi à 14h, mais sur lesquelles aussi nous pouvons nous accorder, parce que, mine de rien, échanger, ça veut dire que chacun lâche une partie de ce qu'il a pour l'autre, et c'est comme ça qu'on conjugue nos efforts.
Après la séance, j'ai flâné parmi le public et cherché du regard celles et ceux qui voudraient bien témoigner à mon micro de leurs ressentis. Les parents, les amis, les animateurs, les plus jeunes qui étaient venus chercher peut-être à leur tour quelques inspirations solidaires. Une idée de voyage, une envie d'ailleurs.
Et qu'est-ce que vous ressentez là au sortir de ce film? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Eh ben, ça m'inspire qu'il y avait quand même beaucoup de préparation derrière et que c'était quand même quelque chose qui était bien réfléchi et qui a été abouti, qui a été bien abouti jusqu'au bout. Et ils n'ont rien lâché et donc ça a rendu quelque chose d'assez super, quoi. C'est assez inouï de pouvoir trouver ça. C'est un petit peu, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est atypique de trouver ça, ce genre de projet comme ça dans le. Globalement, quoi.
Et c'est un de vos. C'est vos amis, c'est vos copains là, qui ont
fait
ça?
Oui, c'est nos amis, ouais. Voilà. On est fiers d'eux.
C'est comment votre prénom?
Moi, c'est Martin.
Merci.
Je pense que le projet était bien construit. Ils ont d'abord réfléchi à aider une association qui avait déjà des idées, des besoins. Et eux, ils ont essayé de construire des actions pour récupérer des fonds. Et puis le fait qu'ils aient assez de fonds pour et financer le projet du réfectoire et pouvoir partir en groupe, les aider là-bas directement. Ouais, c'était un chouette projet. Je crois qu'ils ont été enchantés. On en aura un peu plus là sur le retour, mais je crois qu'ils étaient heureux, oui, de leur aventure.
Et vous, en tant que maman, quel est votre sentiment ?
Oh, je trouve que c'est un joli accomplissement que de passer 2 années à préparer un projet et le voir aboutir et pouvoir partager avec les gens qu'on a aidés, partager des moments qui ont été, je crois, chaleureux et c'était chouette. Oui, je pense que ma fille, ça lui a fait beaucoup de bien.
Voilà. Merci.
Ben, super, ça retraçait bien les bons moments qu'ils ont passés là-bas. Toute l'émotion qu'ils ont eue à leur retour aussi. Voilà. En tout cas, pour ma fille, c'était une grande émotion au retour. Ils ont eu du mal à se remettre dans le bain après. Ah ouais. Donc, je pense que c'était vraiment un beau moment pour eux, un beau moment de partage. Ouais.
Et vous-même, qu'est-ce que vous ressentez?
Oh ben, moi aussi, je suis émue. Je suis émue parce que c'est chouette de voir des jeunes faire ça. Et puis, dans ce cadre-là, vraiment bien. Ouais. Un beau moment d'échange.
Okay. Merci. C'est une belle réussite. C'est des gamins. Hein. Ils ont 17, 18 ans. Bravo. Ils sont épaulés, mais ça n'enlève rien. Il faut du courage, de l'aplomb. Bravo.
Et je trouve que c'est formidable que des jeunes de cet âge-là aient pu faire ce film et le monter. Puis toutes les questions qu'ils ont posées. Et puis j'ai trouvé que les paroles de Doudou étaient pleines de philosophie et j'ai trouvé ça formidable. Très très bien. Très beau.
Ben moi je pense que pour ces enfants, enfin qui sont plus trop des enfants, c'est une super expérience, quoi. Humaine, collective, voilà, à tout point de vue, je pense que ça devait être vraiment positif pour eux, quoi. Mmh. Ça fait envie. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un des auteurs de ce documentaire?
Moi j'ai fait une partie du prix des vidéos et j'ai fait en partie un peu du montage, mais pas beaucoup. Voilà.
Alors qu'est-ce que tu ressens, toi, maintenant que ce film a été projeté pour la première fois devant tout ce public?
Bah, c'est hyper émouvant parce que c'est des super bons souvenirs, des super rencontres, des super moments et on a envie d'y retourner, d'être là-bas avec les gens qui sont géniaux, quoi. Qu'on a passé des moments incroyables avec des philosophies de vie totalement différentes de la nôtre et donc on a envie de retourner là-bas, quoi.
Alors justement, est-ce que enfin, tu y réponds un peu à cette question que je voudrais te poser, mais est-ce que tout ce travail-là, qu'est-ce qu'il vient, toutes ces rencontres, qu'est-ce qu'elles inspirent pour toi comme projet ou comme rêve?
Ces rencontres, c'est vraiment des personnes qui nous ont... on les a aidés, mais en fait, ils nous ont aidés aussi à nous ouvrir sur une autre façon de vivre, sur une autre philosophie et à réfléchir un peu sur qu'est-ce que nous... on peut faire pour aider aussi. On s'est rendu compte qu'en fait, on était capable de faire des choses et du coup, aider, ouais, c'est quelque chose qui me plairait le faire dans le futur.
Je te remercie. C'est comment ton prénom ?
Prune.
Merci beaucoup.
Moi, je m'appelle Damien. J'ai accompagné les jeunes dans le projet du réfectoire, sur place, pendant les 2 ans. Là, je viens de voir le film pour la première fois. C'était un grand moment. J'ai trouvé un travail des jeunes, le film d'une qualité. Enfin, ça m'a beaucoup touché. J'ai revu les souvenirs, les personnes avec qui j'ai passé 15 jours là-bas d'une manière sympathique et vraiment chaleureuse. Voilà, donc beaucoup d'émotions ce soir et je crois que le travail est vraiment de qualité. Je peux féliciter, je refélicite les jeunes pour leur investissement et le travail qu'ils ont amené jusqu'au bout, vraiment.
Ils ont été accompagnés pour la réalisation de ce documentaire ?
Non, ils ont fait ça. En amont, on a eu une petite formation par un vidéaste. On a eu une petite formation pour préparer le synopsis, enfin le scénario, quel message on voulait transmettre. Et au retour, ils ont fait ça tout seul, enfin à 3, 4, un petit groupe en fonction des possibles.
Ah oui, on pourrait terminer par ça. Est-ce que quelqu'un a une question à formuler ? Est-ce que vous auriez, les uns et les autres, tiens, je vous propose ça. Est-ce que vous avez les uns et les autres une question à poser à ce micro, celle qui vous vient, celle qui vous passe par la tête ?
Est-ce que je vais pouvoir retourner là-bas un jour ? Enfin, j'aimerais trop et ça, c'est ça surtout.
Oui, on part là-bas, mais on prend l'avion, notre empreinte carbone, et comment aller là-bas en ayant une empreinte carbone la plus minime, peut-être prendre le train, puis le bateau. Enfin, c'est que des idées, on ne sait pas, mais si un jour on arrive à aller là-bas sans prendre l'avion, je pense que ça pourrait être un super objectif. Je ne sais pas si c'est réalisable au jour d'aujourd'hui.
Au moment où, du coup, on a repoussé notre départ une première fois et on a regardé les différentes possibilités qui existaient, c'est aussi, est-ce que c'est à nous de partir ? Parce que nous, on a les moyens, en soi, de voyager un peu où on veut, ou c'est pas plutôt eux de les faire venir ici pour que eux ils découvrent aussi la France. Voilà.
En tout cas, ce qu'on a pu observer, c'est qu'une des richesses, c'est vraiment l'éducation. Et quand en fait on a des enfants ou des élèves qui sont vraiment éduqués, c'est-à-dire que dans la communauté en question, les jeunes qui intégraient les écoles en fait parlaient plusieurs langues, ils philosophaient. Enfin voilà, nous on est arrivés avec des jeunes qui venaient de passer leur bac, certains ont eu des mentions, etc. Enfin voilà, on était très contents de partir avec eux et qu'ils aient pu finir leur cycle de lycée. Mais on s'est aperçu que là-bas, on peut le qualifier pauvrement, c'est tout à fait possible d'être beaucoup plus éduqué que le système éducatif d'ici. Et ça a été vraiment une vraie découverte, en tout cas. Et ça pose plein de questions. C'est-à-dire que la question de la richesse, qu'est-ce que c'est que la richesse ?
Que le truc qui m'a plus marqué, c'est que la richesse, il l'avait peut-être pas autour d'eux au niveau matériel, mais il l'avait vraiment à l'intérieur d'eux. Et c'était incroyable le nombre de valeurs qu'ils dégageaient. Ils étaient humbles, ils étaient généreux, ils étaient de bonne humeur, enfin... C'est fou, quoi, le contraste entre nous, ce qu'on a, et comment on peut être dans la vie de tous les jours, et eux, ce qu'ils ont, et comment ils sont dans la vie de tous les jours, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a marqué.
J'ai quitté la grande salle de l'ESCDD. J'ai descendu les larges escaliers de bois en emportant avec moi une sorte de trésor. Quelque chose de précieux et qui donnerait sans doute espoir, qui pourrait inspirer les petits frères, et puis, peut-être. Oui, j'avais là enregistré à tout jamais la parole de ces jeunes gens qui venaient un peu me rassurer en ces temps où l'on se dit parfois, quand on est seul, un peu découragé, que va-t-on devenir ? Avez-vous entendu les mots des mains du Diwa ?
Ce que tu aimes, aime ce que tu as.
Extrait de toi. Extrait de vous.
Ah ben moi je ferais bien une saison 2. Je suis pas super persuadé d'avoir bien tout compris. Je pense qu'il faut qu'on y retourne.
C'était Les mains tout plein d'espoir, une émission pour Erdiwa, avec la participation de Adèle, Aurélie, Damien, Jeanne,
Léna, Lilou, Magali, Prune, Simon et Zoé, de quelques parents et amis, mais aussi de Doudou et Ousmane Sow. Merci à l'association Les Mains du Diwa. Merci à l'ESCDD. Merci à l'équipe de l'espace Jeune, Aurélie, Damien et Floriane. Merci à toute l'équipe de RDIWA. Merci à Benjamin. La musique, Ablaï Sissoko, Diam. Une réalisation de Vincent Oran. À bientôt.
C'était magnifique. Voilà.
Bon, mais je vous souhaite d'y retourner, ouais. De continuer l'aventure.
Oui, moi aussi. Voilà, ici ou ailleurs, mais effectivement, les projets de solidarité, dans tous les cas, c'est quelque chose de très riche. On va rencontrer l'autre, on échange des valeurs, on réfléchit beaucoup sur les nôtres et on met en commun et vraiment, on donne de l'énergie ensemble et on fait des choses qui sont grandes.